l'affaire Boukianga-Lonzo, le Sénat n'a pas répondu favorablement à la demande du procureur général près la Cour constitutionnelle d'élever les immunités du sénateur Augustin Matata-Mponyo. Lors de la plénière d'hier mardi 15 juin, sur 96 votants, 46 ont voté pour, 49 contre et un bulletin a été déclaré nul. Avec ces résultats, l'ancien Premier ministre Matata-Mponyo, accusé de détournement des fonds destinés au parc agro-industriel de Boukanga-Lonzo, ne pourra pour le moment être poursuivi par la justice. Quelle analyse faire de la décision du Sénat? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 16 juin 2021. Participe au débat professeur Banyakou Luapé, professeur d'université et ancien juge à la Cour constitutionnelle. Professeur Banyakou Luapé, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Eric Bilalé, chercheur en droit public et avocat. Maître Bilalé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Maître Diallo qui pense que l'article 12 n'a pas sa place dans notre constitution. Article qui stipule que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Le Sénat n'a pas pour mission d'établir la justice mais de permettre aux cours et tribunaux de faire leur boulot. Tous on a vu la débâcle du grand projet Boukianga-Lonzo. Il est intolérable, inacceptable et incompréhensible de ne pas établir les responsabilités. Adalbert Boulenza dit ceci: avec notre justice politisée, les sénateurs ont fait le bon choix. Il ne fallait pas jeter l'ancien Premier ministre en pâture au risque de voir sa carrière politique détruite. On a compris la stratégie à peine voilée de ceux qui sont au pouvoir, éliminer tous les présidentiables. Akindou Maniema, vous nous suivez sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le Sénat a décidé de rejeter la demande d'élever les immunités du sénateur Matata-Mponyo à la suite du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle accusé d'être à la base de la débâcle du projet Boukianga-Lonzo. En effet, 46 sénateurs ont voté pour, 49 ont voté contre et un bulletin a été déclaré nul. Ce vote est intervenu après les travaux de la commission spéciale mise en place chargée d'auditionner chaque sénateur concerné afin de présenter ses moyens de défense. Mais quel était le contenu du réquisitoire du procureur? Michel Kifinda nous en dit plus.
Subsidiairement au premier réquisitoire émis par le procureur général près la Cour constitutionnelle, ce deuxième est émis pour rectifier ce que le procureur a demandé quant à l'autorisation des poursuites judiciaires du sénateur Augustin Matata-Mponyo. Dans sa lettre du 28 avril, le procureur général près la Cour constitutionnelle a demandé au Congrès d'autoriser la levée des immunités de l'ancien Premier ministre afin qu'il soit poursuivi en justice à la Cour constitutionnelle dans le dossier du parc agro-industriel de Boukanga-Lonzo. N'étant plus Premier ministre, le procureur a demandé au Sénat dans ses deuxièmes réquisitoires du 12 mai d'autoriser ses poursuites qui auront lieu à la Cour des cassations. En effet, souligne le procureur, le sénateur Matata-Mponyo n'est plus Premier ministre pour jouir des avantages prévus aux articles 166 de la Constitution et 80 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le procureur Jean-Paul Mokolo invite donc au Sénat d'autoriser les poursuites judiciaires à charge des sénateurs Matata-Mponyo et Ida Kamongi pour permettre aux intéressés de présenter leurs moyens de défense et de faciliter ainsi l'instruction du dossier ouvert dans cette affaire.
Merci Michel Kifinda pour ce rappel. Professeur Banyakouloapé, vous êtes professeur d'université, ancien juge à la Cour constitutionnelle. Le Sénat a décidé de rejeter la demande de lever des immunités du sénateur Matata Mponyo, accusé d'être à la base de la débâcle du projet Bukangalonzo. Comment vous analysez cette décision des sénateurs?
Merci beaucoup, madame. Je crois que il y a deux points de vue. Nous ne pouvons pas tout jeter en l'air, c'est-à-dire considérer que le vote du Parlement est un vote soit impératif, soit que manipulé. À cet aspect de la validité du vote, nous pouvons nous en passer. Mais concernant les faits eux-mêmes qui portent sur la levée de l'immunité, je crois que là, il y a quand même un petit excès de pouvoir, puisque il ne s'agit pas ici d'un vote législatif. Et la plénité de pouvoir du Parlement, c'est-à-dire des sénateurs et de l'Assemblée, porte essentiellement sur la légifération, la législation. Donc, nous ne pouvons pas permettre à ce que l'état des droits soit bouleversé, tout simplement puisque on utilise un aspect de l'administration qui est celui de la levée de l'immunité comme un aspect législatif. Et donc à ce seul point, je considère que le Sénat ou même l'Assemblée devrait réfléchir deux fois avant d'engager une pareille épreuve, puisqu'il s'agit, je ne peux pas vous le cacher, il s'agit d'une épreuve. Une épreuve puisqu'il est fait obstruction, il est fait obstacle à la justice. C'est ça le point de départ.
Mais professeur, donc, le Parlement, professeur, a-t-il le droit, oui ou non, de s'opposer aux réquisitoires du procureur?
Nous ne discutons pas sur le vote du Parlement ou du Sénat. Nous discutons sur les faits. Et vous posez la question de savoir si, oui ou non, le Parlement peut autoriser ou une chambre peut autoriser ou ne pas autoriser. J'ai dit oui, la chambre peut autoriser ou ne pas autoriser. Mais nous revenons au fait fondamental. Est-ce que la levée de l'immunité porte sur une infraction qui a été commise où elle porte sur tout simplement un soupçon? Mais je pense qu'ici, le procureur, en introduisant sa demande d'autorisation pour la levée de l'immunité, il a des éléments constitutifs de l'infraction. Et là, on ne peut pas douter d'un seul instant, lorsqu'un procureur de la République tel que nous le voulons dans un état de droit, introduit une autorisation, la moindre chose, c'est d'autoriser à ce que la cause soit entendue. Ça protège à la fois la personne qui est impliquée et ça protège la société. Ce point de vue, madame, j'ai dit que si le Sénat appuie cette initiative, il doit en porter la responsabilité pour la suite.
Il doit en porter la responsabilité pour la suite,
puisqu'on ne peut pas imaginer un seul instant que la justice, en l'organe de la loi, particulièrement le procureur de la République près la Cour constitutionnelle, il ne va pas se laisser faire et dire que voilà, on a fait obstruction à la demande, surtout ici-là. Une demande précise, c'est une infraction précise, je pense que cela n'est pas bon pour la démocratie. Notez, madame...
Vous dites que cela n'est pas bon pour la démocratie, mais il y a une certaine opinion qui pense aussi que ce vote au Sénat est l'expression même de la démocratie dans notre pays.
C'est pourquoi j'ai, madame, enlevé ce premier volet du vote. J'ai enlevé ce premier volet du vote pour ne pas confondre les choses. Les parlementaires ont droit de voter dans le sens qui répond à leurs propres responsabilités, sauf si c'est impératif, si c'est dicté par quelqu'un d'autre ou par un autre objet que celui portant sur les droits, les pouvoirs législatifs. Donc, j'en viens, madame, maintenant à expliciter ma pensée. L'article premier de notre Constitution reconnaît que nous sommes, le Congo, c'est un état de droit. La République démocratique du Congo, c'est un état de droit. Et qui dit état de droit, c'est explicité par l'article 12, comme vous l'avez évoqué. L'article 12 dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Donc, c'est là la norme fondamentale de notre société. Si nous considérons que dans notre société, il y a un statut de privilège, donc nous sommes pris dans un statut, dans un état de droit, puisque nous refusons nous avons refusé de manière unanime et consensuelle par la volonté exprimée dans notre constitution que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et ça, c'est la norme fondamentale, pour citer Kelsen, un auteur reconnu du droit, qui dit que la norme, c'est la norme qui génère l'ordre juridique. Et ce n'est pas l'inverse. Or, la norme ici, telle qu'elle est posée, c'est que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Comment alors expliquerons-nous par la suite que les mêmes Congolais qui sont dans l'affaire de Bukangalozo, aussi, qui sont concernés par l'affaire de Bukangalozo, puisque eux peuvent aussi être entendus. Alors, dans ce cas-là, on refusera le droit à ces Congolais de se dire aussi l'agent principal ou l'auteur principal ayant été privé, en fait, protégé, nous ne pouvons pas non plus répondre. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ces autres membres, en fait, à ces autres auteurs ou co-auteur de cette infraction commise pour l'affaire Bukangalozo?
Alors, professeur Banyakou, vous dites que si un statut crée une sécurité juridique particulière pour une catégorie des citoyens, ce n'est plus un statut de droit, mais un statut de privilège qui est incompatible à l'état des droits pour tous. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait réviser l'article 107 de la Constitution qui stipule qu'un député, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions?
Oui, madame. Moi, je dis que si vous prenez cet article qui parle de l'immunité, l'article 107, ça commence par « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Je pense que c'est celle-là l'idée principale. Et vous remarquez là, c'est en rapport avec le pouvoir législatif fondamental, le vote de loi ou les opinions émises lors de ce vote. Mais ici, il s'agit d'une infraction. Il s'agit d'une infraction et cette infraction porte sur un individu, un citoyen comme tous les autres citoyens. Alors, la jurisprudence qu'on crée actuellement sera que demain, et même actuellement, puisque vous ne pouvez pas seul juger l'auteur qui est actuellement sénateur, et laisser les autres, ils doivent être jugés ensemble. Et mais si les autres disent que nous ne pouvons pas répondre à l'invitation pour du procureur, au motif qu'un des agents, un des auteurs, il est protégé par son statut. Vous voyez bien déjà, madame, qu'il y a inégalité des citoyens.
Professeur, on vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à maître Eric Bilalé, chercheur en droit public et avocat. Maître Eric Bilalé, comment vous analysez la décision du Sénat? Est-ce que vous pensez aussi comme le prof Banyakou qui estime qu'il y a eu un excès des pouvoirs des sénateurs?
Merci madame de la parole. C'est vrai que je ne pense pas comme le professeur. Je voudrais quand même au tout début préciser que le débat qu'il y a eu au Sénat, c'est vrai que dans le langage populaire ou journalistique, on peut verser dans la logique de la levée des immunités, mais en réalité, le débat qu'il y a eu au Parlement n'est pas un débat de levée des immunités. C'est un débat d'autorisation des poursuites contre un sénateur. C'est pas un débat lié à la levée des immunités. Les immunités ne s'élèvent jamais, parce que les immunités, elles sont fonctionnelles. Elles sont liées strictement aux fonctions parlementaires. Lorsqu'un sénateur commet des infractions à l'occasion de l'exercice de ses fonctions parlementaires, je donne un exemple, un sénateur qui prend la parole en plein Sénat et commet les injures publiques, commet les imputations dommageables en plein Sénat en parlant, ne peut pas être poursuivi compte tenu de l'exercice de ses fonctions. En fait, ça garantit la liberté des fonctions. Alors que l'autorisation de poursuite concerne des faits autres que ceux commis dans l'exercice des fonctions. Alors, revenons au cas de l'ancien Premier ministre Matata. En fait, c'est un sénateur, aujourd'hui, qui est poursuivi pour des faits, en dehors du Sénat, en fait. Vous voyez, en fait, on demande au Sénat d'autoriser la poursuite contre un sénateur. Bon, les débats sur la validité des votes, c'est vrai que le professeur a tout dit là-dessus, on ne peut pas y revenir. Les débats, le sénateur a posé les actes parlementaires conformément à la Constitution. Ils ont le pouvoir d'autoriser des poursuites ou de refuser de le faire. Mais le bureau a une possibilité pendant la session, en dehors de la session, d'autoriser la poursuite. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités d'obtenir la poursuite d'un sénateur ou d'un membre de l'Assemblée nationale en passant soit par la plénière pendant la session, soit par le bureau, strictement le bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale, en dehors de la session. C'est l'article 107, alinéa 3.
Maître Eric Villalé, excusez-moi de vous interrompre un petit instant, puisque cette émission est aussi pédagogique, mais pour autoriser la poursuite d'un parlementaire, il faudrait commencer d'abord par lever son immunité.
Non, on n'élève pas les immunités. On autorise les poursuites. Les immunités sont fonctionnelles et les immunités ne couvrent que les infractions commises dans l'exercice des fonctions. Et pour ces infractions-là, on ne poursuit jamais. C'est même l'interprétation stricte de l'article, de l'alinéa premier de l'article 107. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que dans l'exercice de ses fonctions, les opinions qu'émet un parlementaire, le vote qu'exerce un parlementaire, ça peut constituer en fait un faux en écriture. Hein. Un parlementaire peut, à l'occasion d'une pétition, commettre un faux en écriture. Mais parce que c'est dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, il ne peut pas être poursuivi. Ces infractions sont en fait, comme on dit en droit pénal, décriminalisées par le fait des immunités parlementaires qui sont absolues. Elles ne s'élèvent jamais, les immunités parlementaires, parce qu'elles garantissent la liberté parlementaire, la liberté de l'exercice des fonctions parlementaires. Et elles sont d'ailleurs fonctionnelles. Alors, le problème des privilèges des juridictions, ça c'est un autre débat. Parce que les privilèges des juridictions ne concernent pas les infractions, comme je l'ai dit, commises dans l'exercice des fonctions, concernent les infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions parlementaires. Alors, un statut social particulier du sénateur ne lui permet pas d'être jugé comme tout le monde. D'ailleurs, ça rencontre même l'idée de l'état de droit. C'est là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, dans la mesure où l'état de droit ne veut pas dire qu'une justice soit exercée à l'égard de tous de la même manière. Parce que vous savez, un citoyen lambda, un citoyen simple, un Congolais simple, ne peut pas être jugé comme le serait monsieur le président de la République. Un citoyen simple ne peut pas être jugé comme le serait un sénateur ou un député national. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les privilèges de juridiction. Ces privilèges, en réalité, ne sont pas des privilèges. Parce que vous prenez par exemple le cas d'un sénateur qui doit être jugé devant la Cour de cassation en premier et dernier ressort. C'est-à-dire que pour le sénateur, il n'a même pas la possibilité de faire recours contre une décision de la Cour de cassation le condamnant. Même si cette décision est injuste, il est bloqué parce qu'il ne peut pas faire recours. C'est la courte juridiction de l'ordre judiciaire. Il ne peut pas aller là. Ça n'est pas un privilège. C'est en réalité un mécanisme de protection de garde-fous qui permet à la société de mieux poursuivre le citoyen, les individus, par rapport à leur rang. C'est vrai que l'article 12...
Pourtant, l'article 12 dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi.
Oui, en fait, l'article 12 pose le principe. Le principe de l'état de droit, c'est l'égalité. L'égalité de tous devant la loi. C'est-à-dire... l'article 12, elle a proposé le principe, mais dans la pratique, ce principe connaît des tempéraments en ce qui concerne les statuts sociaux de chaque responsable dans la société. Parce que dans la société, il y a des couches, il y a des couches sociales, et l'État, le ministère public doivent agir de manière à permettre que la justice soit faite. Un premier ministre qui comparaît devant un juge des tribunaux de paix qui a commencé sa carrière il y a une année, c'est complexe d'un juge devant son premier ministre. Or, un premier ministre qui comparaît devant un juge ou un sénateur qui comparaît devant un juge de la Cour de cassation
Vous voyez la situation? C'est un problème d'échelle sociale. En réalité, ça n'est pas l'impunité. Bon, les débats sur l'acte politique.
Maître Eric Bilalé, on a un souci avec votre ligne téléphonique. La réalisation, on va essayer de vous rappeler. En attendant d'améliorer la ligne téléphonique, on va donner la parole au professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Salé, votre lecture par rapport à la décision prise par les Sénats de rejeter la démocratie monde de lever l'immunité du sénateur Matata Mponyo.
Alors, pour ne pas répéter les autres co-débatteurs, les éminents co-débatteurs, il faut les dire, que moi je ne suis pas juriste, je pense qu'il y a un problème dans les sens de fond et dans les sens de forme. Et l'aspect juridique ici prend plus cet aspect de forme d'abord. Et que pour une petite pédagogie, on comprendra que les articles 69, 100 et 149 de la Constitution parlent effectivement du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et on sait qu'il y a séparation des pouvoirs. Ça, c'est d'abord un point très important à comprendre. Comment fonctionne la séparation des pouvoirs? Là, nous avons un sérieux problème d'application. Maintenant, par rapport à l'article 107 qui parle des immunités, pour ne pas répéter le premier paragraphe, ce qui m'étique un peu, c'est vrai. On a dit qu'aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté. Mais il y a une petite phrase. Est-ce que nous serions en cas de flagrant délit ou pas? Bien sûr qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ça, c'est mon premier point. Si on n'est pas en cas d'une flagrance, naturellement, on comprend que la demande exactement de la Cour ne devait que ne pas être acceptée, même s'il y a eu vote pour essayer de le faire. Alors, sur le plan des formes, on a compris que la chose s'est passée telle que tout le monde pouvait l'imaginer. Les pouvoirs législatifs ont le droit de voter pour lever, pour autoriser, et les pouvoirs judiciaires ont les devoirs et l'obligation de tout faire pour essayer de voir s'il y a quelqu'un qui avait détourné le fonds, s'il peut être poursuivi. Alors, sur le plan des fonds, je me rends compte que ce qui vient de se passer, on a traité que la forme. Le fonds, en fin de compte, tout le monde est d'accord, le ministre et tout le monde, qu'il y a eu des bâcles à Bukangalonzo. Les travaux qui avaient commencé le 15 juillet 2014, se sont arrêtés immédiatement en 2016, dans plus ou moins 10 ans. Donc, on doit s'imaginer qu'il y a eu plus de 80 millions de dollars qui ont été utilisés du peuple congolais et que le projet, personne ne va dire l'inverse, le projet n'a pas marché. On ne dit pas que c'est à cause de l'excellence Matata Ponyo. Non, absolument pas. Mais c'est qui doit justifier? Quelqu'un doit justifier. Là, c'est sûr et certain. Il faut pas se leurrer. Il faut pas se tromper. La redevabilité exige que quelqu'un puisse dire pourquoi il y a eu des bâcles et ça n'a pas marché. Alors, on note que c'était un projet pilote pour libérer un peu le peuple congolais de la famine, de ses soucis alimentaires, et c'était un projet où les gens attendaient beaucoup de choses. Rien n'était fait. Ça, c'est le fond de toutes les façons. Si ce n'est pas son excellence Matata, quelqu'un devra justifier. Donc là, je parlais plutôt de fond parce qu'on ne peut pas s'imaginer que le peuple congolais doit continuer à souffrir parce que un des responsables ou bien un responsable est protégé par une immunité ou bien on ne sait pas qui est en fin de compte les responsables. Donc voilà mon analyse, d'abord d'une façon un peu sémantique, d'une façon simple.
Professeur Lali, oui. Il y a cet auditeur, Patrick, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui dit ceci au regard de ce qui s'est passé au Sénat, cette dernière ne risque-t-elle pas de devenir une cachette pour les détourneurs présumés de la République et ainsi perdre son prestige?
Ben, tout à fait. Et je pense que je ne vais pas m'attarder à répondre sur le plan juridique, parce que nous avons les éminents qui peuvent nous dire est-ce qu'il y a flagrant délit. Dans ce sens-là, alors là, ça serait anormal même de parler de lever des immunités. La personne ou bien les gens, même s'ils sont sénateurs, sauf mauvaise lecture de ma part, devait être immédiatement arrêté. Donc, j'ai lu l'article 7 dans ce sens-là, alinéa 2, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Donc, aux éminents co-débatteurs qui sont juristes de nous dire, est-ce que là, on risquerait de se retrouver devant un cas? Notre ami, sa question est primordiale. Est-ce que ça ne serait pas une sorte de cachette? Ah ben oui, ça risquerait d'être une sorte de cachette. Si on n'analyse pas le fond de la question, si on analyse la forme, alors chaque pouvoir risque de se cacher derrière.
Les auditeurs sont très très nombreux à appeler sur un autre standard. Professeur Baniakou Loapé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Clément Kalamba depuis la ville de Lubumbashi. Les votes défavorables opérés par le Sénat sur la demande du procureur général près la Cour constitutionnelle demandant la levée des immunités de l'ancien Premier ministre et actuel sénateur M. Matata Ponyo Mapon est une conséquence logique du principe sacro-saint de séparation des pouvoirs d'une part et c'est aussi l'expression de la démocratie d'autre part. Cependant, ce vote défavorable ne vide pas les casiers judiciaires de l'inculpé, étant donné que les choses peuvent changer toujours d'une certaine manière, dans la mesure où les immunités parlementaires sont temporaires d'une part, et surtout la classe politique congolaise est d'une versatilité imprévisible. De tout ce qui précède, une question retient notre attention. Est-ce que ce vote défavorable que les sénateurs ont opéré sur la demande de la levée des immunités de M. Matata Ponyo est-il réellement l'expression de l'innocence, de l'inculpé, ou encore c'est une manière pour eux de vouloir tout simplement protéger leurs collègues?
Professeur Baniakou.
Oui, moi je pense que le correspondant a tout à fait raison. La plus grande inquiétude, et moi je le répète, c'est qu'on est en train de détruire une norme. Et la norme, je reviens, c'est tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et cette norme est fondamentale, c'est ça qui fait que tous nous nous appelons citoyens, nous sommes fiers de l'être, puisqu'on sait qu'il y a, si on commet une faute, on est puni comme n'importe quel autre. Ça, c'est de un. Et de deux, pour répondre aux correspondants, je pense qu'il serait un peu, je dis subtilement, inutile de débattre sur le vote des parlementaires. Débattons sur le fond de la question, comme l'a dit l'autre. Est-ce que le fait qu'un parlementaire bénéficie d'une sécurité juridique particulière, est-ce que cela peut être conforme dans un état de droit? Je dis non. Et qui peut faciliter ça? Il n'y a que ceux qui sont autorisés, ceux qui ont l'autorisation, l'autorité à établir ce droit-là. Ce droit qui nous appartient, nous tous, d'être égal devant la loi. Et ça, c'est quelque chose, je me dis, madame, je pense que c'est une des premières crises que nous allons connaître, puisque ici, on a fait non seulement obstruction, on a fait offense à la justice. Et au dernier degré, c'est-à-dire au procureur près de la Cour constitutionnelle. Voilà, moi, je vous dis que je ne présage pas de mauvais augure, mais je pressens que si ça a été délibérément fait, alors c'est de la manière la plus irresponsable. Puisqu'il n'avait pas intérêt. L'auteur lui-même, il a prétendu, il a affirmé fort qu'il était à l'étranger, il revient pour se défendre, pour répondre à la justice. Mais qu'est-ce que le Parlement ou le Sénat, qu'est-ce que le Parlement trouve de particulier pour que lui, il ne puisse pas répondre et a besoin de prouver son innocence dans ce grand projet, qui est dans ce grand procès, qui est le procès d'une destruction comportant des millions de dollars. Donc moi je pense qu'on a plutôt pénalisé, puisque là, tout le monde est maintenant convaincu que pour ne pas répondre ou ne pas vouloir répondre, c'est qu'on cache sa propre responsabilité dans cette affaire. Ça c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, madame, j'ai entendu le professeur de tout à l'heure dit que voilà, on confond privilège de juridiction, il s'est étendu là-dessus, mais il ne s'agit pas de ça. Personne ne nie le privilège de juridiction. Mais ici, il s'agit d'un privilège tout court, c'est-à-dire ne pas répondre devant la justice. Il ne s'agit pas d'un privilège de juridiction. Il s'agit ici d'un statut de privilège qui accorde à l'ancien Premier ministre une immunité qui est excessive. C'est-à-dire, ça ne porte pas sur son vote au Parlement, ça ne porte pas sur l'opinion émise lors d'un vote sur les questions législatives, mais il s'agit d'une affaire, la présomption d'innocence, bien sûr, existant, mais il s'agit d'une affaire où il est poursuivi. Il ne s'agit pas ici on dit il est poursuivi. C'est des poursuites judiciaires, madame. Et je ne sais pas si les parlementaires se rendent compte de ça. Et si vraiment l'organe de loi utilise tous les moyens, comment il va intituler ce refus là-bas? C'est une obstruction à la justice.
Merci, professeur. C'était plutôt Maître Eric Bilalé qui a parlé des privilèges des juridictions. Maître Bilalé, puisqu'on parle de vous, on va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La décision du Sénat concernant la levée de l'immunité de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est, à mon humble avis, de nature à encourager l'impunité et à empêcher la justice à poursuivre les gens qui ont détourné l'argent de la République et contribué à la misère du peuple congolais. Cela constitue une trahison du peuple qui sont censés représenter et une complicité de cette chambre dans le détournement de l'argent du pays. Les sénateurs devraient laisser la justice poursuivre tout celui qui serait accusé et impliqué de près ou de loin au détournement des deniers publics, quel que soit son rang social. Ils doivent savoir qu'ils sont sénateurs pour défendre les intérêts du peuple et non des individus qui ont mal géré l'argent de l'État. Nous souhaiterions que on puisse revoir la question des immunités, surtout pour les infractions de détournement des deniers publics, pour permettre à la justice de faire son travail. Quoi qu'il arrive, il finira toujours par être poursuivi un jour en vertu du principe d'imprescriptibilité du droit pénal.
Maître Bilalé.
Oui, madame, merci. J'ai suivi la question de l'auditeur et je voudrais, avant de revenir sur sa question, sa préoccupation, préciser quand même que, vous savez, dans un état de droit, le principe c'est que le gouvernant et les gouvernés sont soumis à la même autorité, l'autorité de la loi. Alors, les privilèges des juridictions ou les privilèges de procédure, des poursuites ou encore l'égalité de tous devant la loi sont de principes consacrés dans l'état de droit. Et ces principes relèvent même de la loi, par moment de la Constitution ou des instruments internationaux. Le principe du juge naturel, c'est un principe sacro-saint de l'état de droit. Chacun a son juge naturel. Les gouvernants n'ont pas toujours le même juge naturel que le gouverné. C'est aussi cela l'état de droit. Donc je voudrais aussi, au tout début, rappeler que mon intervention, c'est vrai, je suis auxiliaire de la justice, mais mon intervention ici n'a pas pour vocation d'orienter l'action du ministère public, hein, l'avocat de la société qui intente de poursuite en mettant en mouvement l'action publique contre un présumé auteur d'une infraction. Et ça n'a pas non plus pour vocation d'empêcher le Parlement, la liberté parlementaire de s'exercer, le libre arbitre de chaque sénateur d'agir. Ça c'est très important, madame. On a parlé de la possibilité de flagrant délit. En fait, il n'y a pas de flagrance, en fait. La flagrance, c'est une situation juridique qui s'est traduite par le fait que l'infraction s'est commise actuellement ou vient d'être commise. Ou encore que quelqu'un, l'auteur présumé de l'infraction, est poursuivi par la clameur publique. Il vient de commettre l'infraction, on l'attrape la main dans les sacs. Nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là. En fait, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est poursuivi. J'ai beaucoup de considérations pour la décision des sénateurs, madame, je le répète, même pour les réquisitoires de monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il est poursuivi pour des faits qui lui sont reprochés dans les cas de Bukangalonzo qui datent d'il y a 2 ans. Alors, la procédure, elle est la procédure normale. Comme je l'ai dit dès le début, soit la plénière du Sénat autorise les poursuites, n'élève pas des immunités, madame, parce qu'il ne s'agit pas d'élever déshumanité.
Alors là, vous l'avez déjà dit, Maître Bilal, il faut évoluer. Est-ce qu'il s'agit là d'une entorse à la justice, comme l'a dit Rémi Lokonga, cet auditeur de Kisangani?
Oui, cher Rémi parle de l'entrave à la justice, de l'entorse à la justice. Ben ça c'est son opinion. J'ai beaucoup de considération pour son opinion, même si cela était l'opinion publique qu'il s'agit de l'entorse à la justice. C'est un acte éminemment politique. L'acte de non-approbation sénatoriale contre les réquisitoires du procureur général, c'est un acte éminemment politique. Bon, le débat politique, on peut le faire, on peut débattre sur la crédibilité de cet acte à l'égard du peuple et au regard de ses représentants. Mais le plus important, madame, dans cette affaire, c'est que c'est une procédure normale. Le Parlement, le Sénat a refusé d'autoriser les poursuites contre le Premier ministre Matata Ponyo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a la possibilité, parce que c'est lui qui est en infraction. C'est seul lui qui a des informations précieuses sur cette affaire, qui peut donner de la lumière à la société. Il a encore d'autres possibilités. Attendons voir, espérons que le bureau va autoriser que le Premier ministre Matata comparaisse aux fins de démontrer son innocence, parce que
merci.
Même si le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo comparaissait devant le juge d'instruction, le ministère public, sa qualité de sénateur va demeurer et il sera innocent présumé jusqu'à ce qu'un jugement ou une condamnation officielle soit prononcée.
Professeur Dadi, on va prendre aussi pour vous rapidement cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
C'est Moïse Malangou, j'appelle depuis Mbujimayi. En fait, le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas des lieux de refuge pour certains parlementaires qui ont commis des crimes économiques comme celui du parc agro-industriel de Kanganonso. Le sénateur Matata Ponyo lui-même a écourté son voyage pour venir faire face à la justice congolaise. Mais on se demande pourquoi ses collègues ne veulent pas voter pour autoriser à la justice de pouvoir initier ses enquêtes et puis déclarer s'il est coupable ou pas. J'ai tellement aimé votre enquête le matin sur ce même parc. Vous connaissez combien les importateurs étrangers ont eu à voir une menace, une guerre contre leurs produits parce que ce parc aillait à fournir des produits au prix moins cher, des meilleurs produits. Alors c'était au moins un grand projet qui devrait soulager le bien-être des Congolais. Il faut que les sénateurs puissent agir en sagesse et puis laisser les sénateurs se défendre.
Professeur Dadi Salé.
Je comprends l'auditeur et j'apprécie un point que Maître Eric vient de dire. Il y a des points qui sont politiques, il y a séparation des pouvoirs. Sur le plan de forme, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'était 49 quand même sur 46. Donc ce n'est pas tous les sénats qui étaient d'accord. Il ne faut pas condamner naturellement tous les sénateurs. Non, il y a des sénateurs qui ont voulu qu'il y ait des poursuites. Et il y a des sénateurs qui ont voulu qu'il n'y ait pas de poursuites. Ça, c'est la loi, c'est la démocratie même. Donc, on peut comprendre ce point-là. Maintenant, quand il s'agit du fond, ça va, c'est là où je suis plus, comme l'ami vient de le dire, l'intervenant. Ben, le fond, je vous l'ai dit. La question qui se pose dans la population, c'est « what next ?» Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que il y a une question de redevabilité. Quelqu'un doit répondre pourquoi Bukangalonzo n'a pas marché. Est-ce qu'il y a eu des détournements ou pas? Ça, c'est la question de fond, même si ce n'est pas Matata qui est lésé d'immunité ou pas, parce que parfois on dit non, quand Matata était là, ça fonctionnait encore, certaines personnes, et puis il y a eu l'État congolais qui a brusquement stoppé les financements. Il y a tellement de rumeurs que le peuple a besoin des éclaircissements. Donc le plan de forme, je suis d'accord, c'est la démocratie, qu'on le veuille ou pas, l'article 100 était clair, il y a eu vote, et qu'il n'y a pas levé d'immunité ou bien quel que soit ce qu'il y a, il ne peut pas être poursuivi. Mais la question de fond maintenant, là où ça intéresse tout le monde, what next? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces projets qui n'ont pas marché et tout le monde est tout à fait d'accord? Donc je comprends l'analyse du co-débatteur et que je demande. Naturellement à tous les constitutionnalistes et surtout au gouvernement de trouver des mécanismes pour que quelqu'un puisse justifier. Parce que la question des formes, comme je l'ai dit, tout s'est passé en bonne et due forme. Comme le premier intervenant l'a si bien dit, le professeur, il faut, on a rien à dire.
Est-ce que le vote s'est passé en bonne et due forme? Oui. Qui a voté pour, pourquoi? Ça, ça ne nous regarde pas. Ils ont été votés et les électeurs doivent en tirer les conséquences. On a voté qui pour être parlementaire et ça, ça ne peut que faire. C'est la démocratie. On verra prochainement s'il a mal voté. Contrairement à son électorat, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un débat qui ne devait pas avoir lieu dans ce sens précis. Pour moi, le vrai débat, c'est un débat de fond où il y a redevabilité. Quelqu'un, si ce n'est pas Matata Ampogno, il faut que si c'est le gouvernement, si c'est le ministre de l'Industrie, qui doit justifier ces débâcles qui a causé du tort au peuple congolais et qui a renforcé la pauvreté et un peu la malnutrition. Voilà ma vraie préoccupation et que ça ne finisse pas ainsi.
Merci professeur Dadi Salé, nous sommes à la fin de l'émission, je veux vous demander vraiment d'être concis dans vos conclusions. Professeur Baniakou Luapé, qu'est-ce qui va se passer après ce refus du Sénat d'autoriser les poursuites contre Matata Ampogno?
Oui, au plus bas mot, je dirais que Matata peut être auteur ou co-auteur, mais en tout état des lieux, tous ceux qui ont commis ou ont été, sont présumés comme auteurs de, ces Boka, de l'affaire de Bokangalozo, il n'y a pas que tous bénéficiant de l'immunité. Donc, si au plus bas mot, le procureur peut continuer son enquête avec les autres membres, qui constituera déjà une inégalité devant les droits, il va déclencher la procédure et les gens seront entendus en dehors de Matata. Maintenant, quand Matata sera cité comme témoin, peut-être, alors il viendra répondre. Peut-être en ce moment-là, les sénateurs auraient changé d'avis. Mais c'est un fâcheux précédent que nous devons éviter dans l'avenir, puisqu'on ne peut pas fragiliser un état des droits de cette manière tout à fait arrogante.
Merci, professeur Baniakou. Maître Bilalé, vous avez suivi la préoccupation du professeur Dadi Salé. Il faudra bien que quelqu'un réponde, justifie cette débâcle de Bokangalozo. Ça sera quoi la suite, selon vous?
Oui, je suis partisan de la justice. Il faut que la justice soit faite. On ne peut pas condamner en avance. On ne peut pas non plus dire que quelqu'un est innocent. Il y a la présomption d'innocence. Donc, c'est une phase des procédures. Le procureur a échoué à la première phase. Le Sénat a eu l'autorisation. Il a encore d'autres possibilités à partir d'aujourd'hui parce que dans les 15, il pouvait passer par la plénière. Aujourd'hui, le 16 juin, il n'y a plus la session ordinaire. Nous ne sommes pas en session ordinaire. Il a d'autres possibilités. Il peut encore demander l'autorisation de poursuite au bureau. Là, ce sont les membres du bureau qui vont se décider en dehors de la plénière à partir d'aujourd'hui. Donc, espérons. Moi, je suis optimiste. Je sais que s'il y a un procès et que la vérité va éclater, si le Premier ministre Matata est innocent, il va démontrer son innocence. S'il est coupable, le procureur, l'accusation va prouver qu'il est coupable.
Merci.
Donc, le débat politique, l'opinion publique, je crains de me lancer dans ces débats parce que c'est l'opinion publique qui a été aboli. C'est elle qui poussait les soldats à transpercer les bras du Seigneur des clous.
Merci, maître Eric Bilalé, professeur Dadi Salé. En 30 secondes, votre conclusion.
Oui, je demande effectivement qu'on soit capable de dépassionner les débats, de ne pas prendre le débat nécessairement dans le sens politique, même si malheureusement, on sent que ce point-là revient avec acuité. Je pense qu'on devait voir l'intérêt du peuple, parce qu'on dit le peuple d'abord. Donc ça, c'est un point très important. Et que effectivement, si des projets de cette taille de Bokangalozo échouent et qu'il n'y a pas de responsables et des coupables, ben, qu'est-ce qui va se passer avec les projets des 100 jours? Qu'est-ce qui va se passer avec tous les projets qu'on aura qui risqueraient d'échouer et qu'il n'y aura pas de responsables? Donc ça, c'est un cas très important d'école qui devra servir à toute la nation, à la société civile, aux partis politiques et surtout au gouvernement.
Merci professeur, c'est la fin de Dialogue entre Congolais. Guy Maté, Dona Madimba, sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué, m'ont aidé à préparer cette émission. Polydor Basunga était à la mise en onde, présentation et coordination. Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.